Bien, donc je suis le docteur Jean Broustra et j'ai donc beaucoup de plaisir ce soir à présenter un travail tout à fait exceptionnel. Je dis bien exceptionnel au sens où c'est un travail qui n'a pas, à ma connaissance, d'équivalent. Il s'agit du travail donc qu'on menait depuis 12 ans, si j'ai bien entendu.
18 plutôt.
Ou peut-être 18 ans, 20 ans. Dans le 13e arrondissement de Paris, dit secteur 13, pour nous, c'est-à-dire secteur 13 de psychiatrie, hein, comme selon la nomenclature de la sectorisation psychiatrique en France, et où, sous l'égide d'un grand patron qui s'appelait le docteur Azoulay, que j'ai eu l'honneur de connaître à Bordeaux quand nous commencions des expériences de type sectoriel aussi, avec l'hôpital de jour Wilson, que peut-être vous connaissez, avec Michel Demangea. Et donc, nous avions rendu visite au docteur Azoulay, qui nous avait donné des conseils extrêmement importants pour, comme disait Michel Demangea, pour nous risquer dans des institutions aventurées. Aventurées parce que nous étions habitués à soigner les patients en psychiatrie dans le cadre de services de psychiatrie, à dispositif médical, si vous voulez, et que là, d'un seul coup, avec la politique de secteur, impulsée dès les premières années d'après-guerre, dès les années 50, avec une magnifique convergence qu'on ne trouve plus aujourd'hui entre le secteur privé, le secteur associatif et le secteur public, on a pu, encore une citation de Michel Demangea, démurer les asiles. C'est-à-dire que la grande majorité de ce qu'on appelle les psychoses chroniques, schizophrènes, pour prendre la référence, j'allais dire, emblématique de ce groupe de patients, étaient soignés pour leur phase aiguë dans des services qui étaient de conception très médicale. Et ensuite, et si, comme on disait, il y avait encore des problèmes qui subsistaient sur le plan symptomatique, ils étaient invités à poursuivre leur traitement pour des séjours souvent très longs dans les hôpitaux départementaux, anciennement appelés asiles d'aliénés. Et comme on sait, cette coupure avec le monde extérieur qui était apparue dès les crises initiales de la maladie faisait que ces patients perdaient le contact à la fois avec leur famille, avec leur environnement immédiat et avec tout l'ensemble social, et j'ajouterais culturel. Ce qui fait que nous sommes dans une situation après la guerre, qui va permettre de risquer, alors par le 13e arrondissement de Paris, par nos secteurs en Gironde, aussi à Bordeaux, de pouvoir rencontrer les patients d'une autre façon que simplement l'entretien classique, j'allais dire, avec le médecin en présence de l'infirmier, ce qui était le dispositif de base de la psychiatrie médicale. Et ce qui va apparaître à partir du moment où on va commencer à ouvrir les hôpitaux de jour, puis plus tard les CATTP, et puis à faire cette magnifique chose qui s'appelait la politique de santé dans la cité, c'est-à-dire au contact de la réalité sociale, eh bien, nous allons, à ce moment-là, voir apparaître quelque chose qui est capital et qui est encore négligé dans ce qui se veut la recherche psychiatrique à prétention scientifique, c'est-à-dire la notion d'équipe. C'est-à-dire que le patient n'est pas seulement rencontré par le psychiatre ou son discipliné infirmier qui l'écoute avec respect, mais le patient est amené à rencontrer des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes, des psychologues, des psychomotriciens, des éducateurs, des animateurs. Eh bien, le travail qu'ont fait Victor Souffire, qui est à ma gauche, Bernard Audier, qui est à ma droite, et Serge Gauthier, qui n'est pas là, qui sont tous les trois des psychiatres du secteur 13 de Paris, qui sont donc directement des élèves du docteur Azoulay dont je parlais tout à l'heure, et qui ont pour qualité, selon moi, d'être ce qu'on appelle des psychiatres psychanalystes. Et ces psychiatres psychanalystes, qui ont préféré, plutôt que de faire de la psychanalyse, j'allais dire en cure-type, pour dire comme on dit habituellement, ce sont plutôt, pour une grande part de leur activité, j'allais dire probablement pour une part la plus importante de leur activité, ce sont associés à des équipes soignantes pour essayer de soigner le mieux possible, dans la durée, ça c'est très important, des patients pour qui, si l'espérance d'amélioration est possible à envisager, et elle est possible à envisager, demande quand même ce qu'on appelait autrefois, dans une première époque, la continuité des soins, ce qui n'empêche pas qu'à un moment, il faille aussi introduire une notion de discontinuité, c'est-à-dire comment aussi se séparer pour pouvoir véritablement ne pas faire comme fait admirablement notre ami Jean Houry à la Borde, c'est-à-dire créer des institutions tellement, tellement intelligentes et satisfaisantes pour les patients qu'ils ont tendance à y rester. Mais nous avons pris, mais je parle là donc de la psychothérapie institutionnelle, qui a des aspects très divers, hein, puisque aussi vous avez des expériences de secteur. Je pense à Roger Gentis, que j'ai bien connu à Orléans. Je pense à mon ami Minard à Dax, qui a fait un long travail, ce que j'ai fait moi-même à Libourne pendant 30 ans. Donc tout ça, ça s'appelle du travail de précisément où le lien, non pas du tout idéologique ou imposé, de la psychanalyse avec la psychiatrie, en tout cas la psychanalyse y trouve sa place pour aider les patients, mais pour aider aussi les soignants à être dans une meilleure analyse, si je puis dire, ou dans une meilleure intuition de ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert. C'est-à-dire ce qui se passe quand, pendant des temps assez longs, nous rencontrons des patients de ce niveau clinique. Donc, pourquoi ils ont fait un travail extraordinaire ? Ben parce que, vous savez comme moi, que la dominante de ce qui s'appelle les cotations ou l'évaluation, voilà, c'est le terme tout de même qui pèse beaucoup actuellement, ce qu'on appelle l'évaluation, a été en quelque sorte impulsée par la psychiatrie nord-américaine avec les célèbres DSM, dont je ne dirai rien ce soir, sinon que vous savez que le DSM-5 est en préparation, que tout de même ça dure depuis 1950, non ? 4 ?
Le DSM-2, oui, mais le DSM-2 était d'inspiration pratiquement psychanalytique.
Voilà. Alors, c'est ça.
Il faudrait dire 1982, le
oui,
DSM-3.
C'est ça. Il y a eu une première époque où la psychanalyse avait sa place, j'allais dire, dans la cotation des DSM, et puis il y a eu une révolution que vous savez, c'est-à-dire l'influence très, très radicale du comportementalisme qui a fait que maintenant, le DSM sur lequel nous sommes actuellement, qui est le 4, est évidemment tout à fait différent et se caractérise. Dès le premier, c'était comme ça d'ailleurs, même si la psychanalyse, en quelque sorte, en atténuait les angles, mais se caractérise par une rencontre, j'allais dire, diagnostic statique. Voilà, c'est ça le mot. C'est quelque chose qui fait que ça me rappelle mes anciens patrons, qui étaient des gens prestigieux, mais qui, quand un patient rentrait dans la salle de consultation, en deux coups d'œil, ils avaient fait le diagnostic avec deux ou trois traits signifiants. Une manière, si vous voulez, qu'on a qualifié de typologique, c'est-à-dire d'épingler en quelque sorte le diagnostic à partir de traits signifiants. Eh bien, il est bien évident que cette manière d'épingler, comme je dis, le diagnostic, est quelque chose qui ne peut que, pour un psychiatre psychanalyste, faire contradiction avec la réalité, la dynamique l'inscription temporelle des rencontres avec les patients. C'est-à-dire que on va passer, et c'est ce que propose ce travail, d'une évaluation statique à une évolution dynamique, inscrite dans le temps, inscrite dans la relation, et qui n'est pas seulement celle des experts, comme on dit, des experts psychiatres en particulier, mais de tout l'ensemble de l'équipe. Alors ça paraît comme ça extraordinaire, et en plus, au bout de ce travail d'une vingtaine d'années, donc, on aboutit en plus à une formidable prétention, mais qui est très justifiée, c'est-à-dire que de ce travail d'appréciation, de cotation, on va dire du travail acharné que font les équipes pour aider les patients, on en vient à une nouvelle considération, j'allais dire, de l'organisation diagnostique des psychoses. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est au bout du travail. C'est peut-être encore en cours, je crois. C'est la fin du livre qui nous ouvre à cette perspective, mais c'est quand même extraordinaire. Et donc, j'ai vu le travail cet après-midi avec une équipe d'hôpital de jour. C'est évidemment, tout de suite, comme je disais, on est sensible à ce climat d'équipe, à ce climat du collectif soignant. C'est-à-dire que quelqu'un présente le cas, mais tout le monde exprime à partir d'items, hein, puisque c'est comme ça qu'on dit, qui sont des items centrés essentiellement sur le mode de relation du patient avec son équipe soignante, avec lui-même, c'est-à-dire son espace psychique, son corps, ses modes de relation avec les patients, avec son traitement, aussi naturellement avec l'environnement familial. La famille a beaucoup d'importance. Et également, ce que je trouve qui devrait se développer un peu plus à mon goût, mais ça, c'est mes obsessions personnelles, au niveau de l'espace de création, de ce qu'on appelle loisir. Moi, j'aime pas trop le terme, mais enfin, bon, on va en discuter. Voilà, c'est pas très grave. C'est très véniel par rapport à l'extraordinaire qualité de ce travail. Donc, je dirais aussi que ces psychanalystes qui sont quand même dans un courant de la psychanalyse, puisqu'ils sont référés essentiellement à des écoles freudiennes la Société psychanalytique de Paris. Donc leur référence, c'est Freud, magnifiquement restitué dans sa position de pionnier, de précurseur, pour avoir posé des jalons essentiels dans la compréhension psychopathologique, voilà le mot qu'il faut dire, des psychoses. Et puis, naturellement, on trouve les grands référents classiques de cette école en France, c'est-à-dire, à part Azoulay, dont j'ai parlé, vous avez Lebovici, Paul-Claude Racamier, dont on ne dira jamais l'importance du travail qu'il avait fait. Moi, je conseille toujours de lire son petit livre chez Payot sur les schizophrènes.
Excellent.
C'est un magnifique bouquin et toujours d'actualité. Vous avez Diatkin, vous avez tout ce beau monde qui est là. Et bon, il n'y a pas beaucoup de présence de la pensée de Lacan. Je regrette un petit peu peut-être, mais bon, c'est comme ça. Mais n'empêche que je pense que l'esprit est suffisamment ouvert pour que... Je pense que vous avez rencontré des Lacaniens qui s'intéressent à ce travail.
Ça commence.
Espérons que ça va aller. Parce que autant les mouvements, j'allais dire, notamment parisiens, autour de Lacan, actuellement, attaquent avec une vigueur qu'on ne peut pas leur reprocher les DCM, comme étant complètement leur dernier petit bouquin, là, c'est vraiment une charge de dynamite contre les DCM, mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que, et la critique est parfaitement fondée, mais c'est aussi de dire comment peut-on travailler à évaluer, parce que vous savez bien, et bien des gens ont perverti ce problème, puisque vous savez bien que la psychanalyse est marquée par une certaine confidentialité, référée à la cure type, que naturellement on ne va pas exposer... trop ouvertement la trajectoire des personnes qui ont été aidées par la psychanalyse. Mais de là à n'en rien dire, de là à considérer qu'on n'a pas à répondre à des demandes d'évaluation, je crois que là, il y a un problème qui fait le... qui donne l'avantage aux ennemis, et parfois aux ennemis les plus flagorneurs de la psychanalyse. Et ça, je trouve que, à ce point de vue, le travail de Victor Soufir, de Serge Gauthier et de Bernard Audier est un apport considérable à une réponse possible avec la référence de la psychanalyse qu'on peut rendre compte d'une activité soignante avec la psychanalyse. Et le travail institutionnel, donc, vous avez compris que je considère que ce livre est un grand livre, et je vous souhaite de pouvoir, après avoir entendu les deux auteurs qui sont là ce soir, vous plonger dans ce bouquin passionnant.
Bon, on n'est pas habitué, hein, nous, à autant d'éloges et venant d'un collègue que je connais depuis longtemps, mais à qui j'ai demandé de bien vouloir nous introduire à Bordeaux avant qu'il ait lu le bouquin. Donc je ne savais pas à l'avance ce qu'il allait en penser. Évidemment, j'avais bon espoir que ça allait l'intéresser. Et évidemment, on peut que te remercier, Jean, de tes appréciations très positives, peut-être excessivement positives. Enfin bon. Moi, je dirais que tu as raison de pointer les filiations dans lesquelles on s'inscrit. C'est sûr que il y a eu dans le 13e arrondissement des psychiatres psychanalystes qui ont été les fondateurs du 13e, Racamier, les Bovici, Diatkin, Jacques Azoulay, juste après eux, qui ont créé, soutenu un travail clinique au moins aussi assidu que le nôtre, hein. Et qui ont eu une puissance de percussion. Hein. Alors, c'était les Trente Glorieuses. C'était peut-être plus facile à ce moment-là de créer des institutions, d'en fonder des nouvelles qu'aujourd'hui, où moi, je suis un peu malheureux de voir que la psychiatrie publique se comporte plutôt un peu comme une peau de chagrin. Bon. Mais il y a cette filiation-là du côté du 13e. Il y a aussi une filiation du côté de la psychothérapie institutionnelle. Tu as raison de l'évoquer. Moi-même, j'ai travaillé 10 ans chez Jean-Claude Sécheresse, qui était un élève de Torubia, de Gentis, etc. Et alors, notre travail, tu as raison de le situer, c'est le travail d'une génération qui a trouvé d'emblée une psychiatrie qui s'était déplacée hors les murs. Et au fond, on pourrait dire que si ça n'est pas notre génération qui a accompli cette révolution que tu racontes, c'est un peu notre génération qui est la première à avoir disposé, ben pendant, on peut le dire, 30 ans, hein, d'un outil de soins qui était un outil de soins surtout extra-hospitalier et qui permettait d'obtenir au fond des observations très riches de la façon dont les malades de l'hôpital étaient devenus des patients ambulatoires. Et quand je dis ça, je dors un peu la pilule, j'exagère un tout petit peu, mais en fait, c'était de ça dont il s'agissait. On a, nous, d'emblée, eu à s'occuper de patients qui passaient l'essentiel de leur temps en dehors de l'hôpital, et on a eu à apprendre à s'en occuper en se passant des commodités, hein, de l'hôpital, qui faisait que le médecin avait toujours sous la main et sous les yeux, à la limite, le patient. Nous, il a fallu qu'on apprenne à s'en occuper en n'étant pas toujours là, hein. On a appris à jouer de la présence, de l'absence aussi des patients. Les hôpitaux de jour sont devenus des observatoires tout à fait privilégiés. Hein. Le terme d'observatoire, je crois, convient, hein, pour décrire la valeur de l'hôpital de jour comme producteur de cette clinique, nouvelle clinique extra-hospitalière. On pourrait dire que un peu à l'opposé à la fois de la clinique intramuros des hôpitaux psychiatriques, hein, mais aussi à l'opposé de la clinique psychanalytique stricto sensu se déroulant dans l'intimité du cabinet du psychanalyste, on a comme ça été en situation de construire patiemment une sorte de nouvelle clinique. Tes encouragements sont si puissants que on n'a pas osé appeler notre livre comme ça, hein, mais on aurait pu appeler ça Nouvelle clinique des psychoses, hein, si on ne s'était pas un peu dégonflé. Bon. Donc, peut-être le tome 2, ça s'appellera oui, peut-être comme ça. Bon.
Ça vaut la peine.
Mais c'est une nouvelle sémiologie des psychoses qu'on a essayé de constituer. Donc, tu en as bien identifié les éléments. La clinique classique, qu'on n'a pas répudiée, qu'on connaît, qu'on a bien étudiée. La psychopathologie psychanalytique, et Victor Soufir, cet après-midi, nous a parlé très bien de l'héritage de Freud dans ce domaine de la psychopathologie des psychoses. Et puis, la chose nouvelle, moderne, qui s'est appelée à un moment donné la clinique de secteur, sauf que les essais pour la collecter, la ramasser, ont plutôt échoué, je dirais, enfin, n'ont pas été très convaincants. Mais c'est quand même de ça dont il s'agit, la clinique de secteur, c'est-à-dire toute cette expérience que les infirmiers, psychologues, assistants sociaux ont accumulée patiemment dans les centres médico-psychologiques, dans d'autres cadres aussi, et que nous, on a dans le fond collecté. Hein. On a accompli une première étape qui était une étape. Alors les Québécois, ils appellent ça la cueillette de la clinique. C'est mignon, la cueillette, bon. On a accompli une première étape qui était une étape de cueillette de cette clinique, de collection de cette clinique, qu'après on a essayé d'ordonner avec l'idée générale que, après tout, si les patients étaient dans l'ensemble plutôt satisfaits, hein, même si la vie quotidienne des patients psychotiques n'est pas toujours rose, je crois qu'il n'y a aucun patient psychotique qui vivote chez lui avec l'aide de la psychiatrie qui regrette le temps où il aurait passé sa vie derrière les murs de l'hôpital. Aucun ne le demande. Bon, même si ça veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'une bonne hospitalisation psychiatrique qui est capable de tenir le coup quand il faut, etc. Mais enfin, en gros, si vous voulez, c'est un virage irréversible. Hein. C'est un tournant qui a été accompli. Aussi bien d'ailleurs par les patients que par les équipes de psychiatrie de secteur. Donc se sont ainsi constitués tout un ensemble de situations humaines qu'il fallait essayer de décrire, dans lesquelles il fallait essayer de s'y retrouver, ne serait-ce que pour pouvoir affirmer, et c'est là où je dois te dire que je te remercie beaucoup de prendre le risque d'une impopularité relative en te déclarant pas hostile à l'évaluation dans son principe. C'est vrai qu'il nous a semblé que le jugement clinique qui est le fruit du métier, qui est le fruit de l'expérience, qu'on admirait tant chez notre maître Jacques Azoulay, ce jugement clinique, il est loisible, c'est pas une tâche honteuse, d'essayer de le formaliser pour le rendre, peut-être alors on pourra nous dire, mais vous avez relooké, c'est du modernisme, vous schématisez, etc., etc. Oui, d'accord, mais c'est pas interdit d'essayer de formaliser le jugement clinique pour le rendre plus transportable, plus transmissible aux jeunes générations. Bien entendu, j'espère qu'on réussit à faire un travail qui ne se confond pas, hein, avec les échelles d'évaluation nord-américaine simplificatrice que tu as évoquées rapidement, etc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Jean de ton soutien prononcé dans cette entreprise qui, tu l'as deviné, n'a pas été tous les jours facile, et notre équipe aurait eu besoin de te connaître plus tôt pour être à ce point encouragé dans ce travail.
On va continuer. Donc, mon voisin,
Victor
Soufflier.
Donc je voulais remercier en effet Jean Broustra, remercier aussi Isabelle Bretenou qui nous a propulsés dans son service, qui a fait tout un ramdam pour que nous ayons 40-50 personnes cet après-midi pour faire une cotation ensemble et pour présenter la COP 13. Remercier Jean Broustra parce que Jean Broustra, et je pense à Demangea, qui Jean Broustra, on a parlé un petit peu sur la route, en deuil de Demangea, son ami. Oui. Hein, et deux hommes profondément engagés, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la psychiatrie avec toute leur énergie et leur curiosité humaine pour les gens, les patients, les malades, leurs familles aussi, et sans chercher de repérage lointain, froid. Jacques Azoulay était un homme comme ça. Diatkine, Lebovici, on a eu la chance, nous sommes arrivés à une époque où tout, ils étaient là, ils étaient en bonne santé. Ils nous montraient comment ils travaillaient. On était des jeunes sortant de l'internat, n'y connaissant donc strictement rien. Et nous nous retrouvions avec des responsabilités énormes d'un secteur, par exemple, des responsabilités énormes, avec des décisions à prendre pour des malades très compliquées, très difficiles. Et on les a vus, parce que psychiatres et parce que psychanalystes, engagés dans l'observation, l'interaction, l'intérêt, le suivi. J'entendais Jacques Azoulay le matin venant à l'hôpital de jour disant « Monsieur un tel m'a appelé chez moi ». J'ai répondu, il était 3h, 4h du matin. J'ai tenu 5, 10 minutes à essayer de le calmer, de lui répondre. Jacques Azoulay était un homme qui répondait. Et qui connaissait les gens sur 30 ans, 40 ans, qui les avait vus évoluer. Et donc il avait acquis une expérience qui faisait qu'à certains moments décisifs du traitement du patient, il avait un flair, une intuition qui touchait juste. Et nous qui étions jeunes, on se demandait mais comment acquérir ça ? Et alors on s'est dit bon ben nous sommes élèves, essayons de faire les choses simplement, essayons de mettre sur le papier comment on évalue l'état d'un malade. Et nous avons commencé tout bêtement dans un moment où on craignait des coupes très importantes, puisque les coupes ont commencé dans les budgets en 1993.
Oui, c'est
et
ça.
Nous, nous avons... Hein, c'est ça.
Oui.
C'est à partir de 1993 que les moyens ont commencé à nous être tirés, vague par vague. Et nous avons commencé à travailler ensemble en 1994, donc tout à fait à cette époque-là, parce qu'on se disait, mais on va nous demander des comptes, on va nous demander, mais qu'est-ce que vous faites avec les patients qui restent là 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans un hôpital de jour, il n'y avait pas de CATTP, il y avait des foyers. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là ? Alors comment faire passer ce qu'on avait un peu compris ? Et c'est là que nous avons commencé à nous réunir, à parler des malades comme ça, sans dossier, sans test. On arrivait le soir, Isabelle a été avec nous pendant un certain temps, on ne préparait rien. Bon, de qui on parle ce soir ? Bernard avait une idée, hop, allez, il se lançait, il racontait le malade. Et nous, nous étions là avec notre grille qui, au fur et à mesure, la COP 13 qui s'ébauchait, qui s'organisait. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que nous arrivions à utiliser la sémiologie, qui était une sémiologie purement relationnelle, c'est-à-dire ce qu'il avait senti, ce qu'il avait vu des familles, ce qu'il avait entendu des soignants parler des malades, toute une symptomatologie relationnelle qui rentrait parfaitement bien dans cette drôle de grille qui, finalement, s'est composée de 26 items. Je vais vous distribuer des feuillets qui indiquent les noms de ces items que vous retrouverez dans le livre, évidemment, beaucoup plus développés, expliqués, etc. Nous avons donc, nous rentrions cette sémiologie relationnelle, cette sémiologie racontée, re-racontée, réélaborée, et nous la rentrions dans nos cases. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte que finalement, ces cases se remplissaient pas mal, que finalement, nous arrivions à repérer trois degrés de sévérité, c'est-à-dire trois niveaux d'organisation. Il y a, dans la COP 13, ce sont des niveaux d'organisation de la relation d'objet déclinés dans toutes ces dimensions que nous voyons apparaître. Dans les échelles américaines, on appelle ça des degrés de sévérité. Bon, nous appelons ça des niveaux d'organisation. Et donc, au fur et à mesure, nous rendons compte que ça fonctionnait très bien et que nous avions fait rentrer finalement l'essentiel de la sémiologie psychiatrique utile. Nous avons laissé de côté des quantités de descriptions des auteurs du 19e siècle, intéressantes mais pas véritablement utiles. Et donc, la sémiologie utile est rentrée progressivement dans nos cases. Nous avons demandé à l'orfèvre en la matière qui était Jacques Azoulay, qui, sans arrêt, étudiait, sans arrêt, en deuxième, il avait une sorte de tâche de fond, comme on dit maintenant, une tâche de fond qui était d'organiser dans sa tête des petites séries. C'est-à-dire qu'il disait, tiens, ce patient et celui-ci ont quelque chose de commun, par exemple, dans la façon d'utiliser l'instrument psychiatrique. L'instrument psychiatrique, l'appareil de soins, c'est-à-dire l'ensemble. Consultation, hôpital, hôpital de jour, etc. Il observait comment les malades se servaient du dispositif, comment les familles soutenaient ou attaquaient le dispositif. Donc, pour lui, tout était dans l'espace des relations. Et nous lui avons demandé de nous faire l'item « relation du patient avec le dispositif de soins ». Un jour, il nous l'a apporté. L'item était fait, complet, fini. Nous n'avons jamais changé un iota à ce qu'il a fait. Jamais. Et tous les malades que nous voyons trouvent leur mode de description, leur niveau d'organisation, leur mode de description. Et ce que nous voyons, c'est qu'avec le temps, si on a fait, et nous avons fait certaines cotations, nous en avons fait à peu près 150, et avec tous les cycles de formation que nous faisons, on doit être à 200 facilement. Eh bien, nous voyons qu'il y a des différences significatives, qu'il y a des différences significatives dans l'évolution des patients. Ce n'est pas des évolutions du tout au tout, mais c'est des évolutions significatives qui viennent du traitement, de la longue fréquentation, de la fidélité. C'était un terme de Hélène Chéniaud, ça, la fidélité, l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être prêt à suivre les gens longtemps, à travers des crises, à travers des difficultés. Et puis, avec le temps, on voit qu'il y a une amélioration. Eh bien, la COP13 sert à repérer ces améliorations dans le temps, ou ces aggravations, il y en a. C'est une échelle c'est un instrument qui sert également à voir s'il n'y aurait pas un pas nouveau à faire dans le traitement de quelqu'un. Est-ce qu'on pourrait envisager quelque chose de plus, c'est-à-dire une autonomie un peu plus grande? Ou au contraire, est-ce qu'il faut renoncer à cette autonomie plus grande? Par exemple, le fait de vivre seul. Il ne vaudrait pas mieux peut-être qu'ils vivent dans un foyer. Vous voyez, ça permet des orientations dans le traitement sur la base d'une sorte de consensus. C'est-à-dire que chaque membre de l'équipe soignante peut, quand nous lui montrons le contenu de nos items, situer le malade. Et finalement, nous arrivons à l'idée que finalement, c'est pas mal, il faut continuer comme ça, ou il y aurait un changement important à faire, thérapie, entretiens familiaux, entrée dans une institution, sortie d'une institution, ou bien il vit dans un endroit qui est inadéquat. Vous voyez, ça aide à donner des orientations. Alors, je peux vous donner la liste des items de la COP13, ça vous donnera une idée de ce qui... ce de quoi on parle. Tenez, vous pouvez faire ça. Bon, chacun de ces items étant dans le livre, évidemment, expliqué. Nous faisons référence aux principaux auteurs. Nous captons ce que les principaux auteurs ont dit dans les différentes pour ces différents items. Nous avons le sentiment que les équipes soignantes participent totalement à ça. C'est un langage ordinaire, c'est une clinique courante. Et donc les équipes soignantes se retrouvent très bien et prennent du plaisir à voir leur patient, et souvent à voir le patient comme il est maintenant et comme il était autrefois quand ils l'ont connu il y a 5 ans, 10 ans. On voit très bien l'évolution pour chaque item du chemin parcouru par le malade.
Je vais juste ajouter un mot pour vous faire voir le saut qualitatif considérable qui s'effectue entre le DSM 5, 4, puisqu'on n'y est pas encore au 5, américain, et puis le travail de nos collègues français qui s'inscrivent, eux, dans la tradition de la grande psychiatrie européenne. Quand même, on peut dire ça. On peut dire ça, tu rappelais Freud tout à l'heure, il y avait aussi Binswanger, il y avait aussi Bleuler, il y avait aussi tous ces grands messieurs du début du siècle ou de la fin du 19e. Vous êtes dans cette tradition. Et pour vous montrer en deux mots, le DSM-4 qualifie, après avoir fait tourner autour de la schizophrénie sur les thèmes de paranoïdes, troubles de l'humeur associés, etc. Bon, des choses très classiques en même temps, finit par proposer un item qui s'appelle schizophrénie résiduelle. Eh bien, si vous voulez, la schizophrénie résiduelle, c'est tout de même un peu retrouver ce que Kraepelin décrivait quand il disait que les schizophrènes, ça s'appelait la démence précoce. Les schizophrènes évoluaient un certain temps, puis après, il y avait une dégradation inéluctable, on peut dire résiduelle, enfin, en tout cas, des gens qui avaient perdu la capacité de penser, de vivre, d'espérer et de désirer. Eh bien, nos amis proposent plutôt, pour parler de ces problèmes dont nous avons parlé cet après-midi encore, à propos d'un cas clinique, de palier de stabilisation. C'est quand même pas les mêmes mots. Et c'est pas les mêmes images. Parce que palier, ça veut dire que, bon, on a atteint quelque chose avec peine, parfois, que c'est pas complètement assuré, mais c'est que c'est quand même quelque chose qui fait qu'une certaine paix intérieure, puisque l'espace interne, quand même, dans la psychanalyse, c'est important comme référence, eh bien, il me semble que sur ce petit exemple, vous comprenez très bien, j'espère, le saut qualitatif et combien souhaitable aujourd'hui qui est fait par ce travail par rapport à cette évaluation qui est quand même vécue à la fois par les psychiatres, pour beaucoup d'entre eux, hein, je ne dis pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, et par les équipes soignantes, comme un harcèlement, sens fort, un harcèlement persécutif de l'évaluation. On n'est pas dans le même monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et peut-être vous pouvez réagir à ce que je dis.
Oui, volontiers. Volontiers. Non, c'est vrai qu'il y a un problème avec l'évaluation. Moi, je pense que, en tant que formalisation du jugement et des opérations de jugement, l'évaluation est quelque chose qui n'est pas négatif et qui n'est pas destructeur. Mais c'est vrai que notre travail a ceci de particulier que l'évaluation clinique qu'on se propose de proposer, enfin qu'on propose, qui est une méthode de description clinique, d'une certaine façon, elle naît des cliniciens eux-mêmes, c'est-à-dire c'est un outil d'évaluation mais qui est produit en quelque sorte par ceux-là même qui vont s'en servir et qui pensent que c'est utile. C'est pas, on pourrait dire que c'est une, pour utiliser le jargon américain, on dirait que c'est une évaluation down-up, hein. C'est-à-dire elle part d'en bas et puis elle vise des objectifs qui sont des objectifs de plus en plus haut situés, et pas une évaluation up-down qui vous tombe dessus et qui, effectivement, déclenche ces réactions défensives de persécution. Alors qui, en réalité, tu as raison, pour le moment, paralyse un peu la profession. C'est dommage. Moi, j'ai l'espoir que notre travail... alors, j'ai utilisé un terme de jargon psychiatrique, mais... que notre travail augmente la résilience de la psychiatrie publique face aux différentes menaces qui la concernent. Parce que c'est un travail qui devrait aider les gens...
Qui est optimiste.
Et oui, puis oui. Qui devrait aider les gens à être davantage capables de d'écrire et d'expliciter leur travail, tout simplement. Mais avec des outils qui sont des outils un peu au goût du jour... peut-être pas opposable, hein, comme on pourrait le rêver, mais enfin, malgré tout, moi, je me souviens de ce médecin de la Sécurité sociale qui m'avait dit un jour, là, c'était il y a 15 ans, il m'avait dit, mais docteur Audier, votre hôpital de jour, les malades qui rentrent, c'est des schizophrènes, ils n'ont pas beaucoup de symptômes, parce que s'ils vont dans un hôpital de jour et pas dans un hôpital tout court, c'est quand même qu'ils vont pas trop mal, donc ils n'ont pas trop de symptômes, ils sont sous neuroleptiques. Quand ils sortent de votre hôpital le jour, 3 ans après, ils sont schizophrènes, ils n'ont toujours pas beaucoup de symptômes, ils sont sous neuroleptiques, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Et moi, ma conviction était quand même entière, hein, que c'était utile, le traitement à l'hôpital le jour. Mais je me disais, putain, il faudrait pouvoir le prouver, merde, il faudrait pouvoir lui... faudrait pouvoir le prouver,
donc,
quoi.
Donc, ce provocateur a bien fait de vous stimuler au travail.
Peut-être.
Bien, sur ces considérations magnifiquement élevées, je vous remercie de votre attention et de l'intérêt que vous portez à ce travail. Donc, les auteurs vont éventuellement vous signer des livres.
Oui, si vous voulez.
Avant que nous nous séparions.